Puissiez-vous mourir sur Caladan. Toast des temps passés. Duncan s'efforçait de se rappeler où il se trouvait. Il savait que Tormsa était mort. Le sang avait giclé de ses yeux. Oui, il s'en souvenait clairement. Ils étaient entrés dans un bâtiment obscur et la lumière avait soudain éclaté autour d'eux. Duncan avait senti une vive douleur à la base de la nuque, un coup reçu. Il avait essayé de se retourner, mais ses muscles n'obéissaient plus. Il se souvenait qu'il était assis en bordure d'une vaste pelouse où se déroulait un jeu complexe avec des boules excentriques qui rebondissaient dans toutes les directions sans cohésion apparente. Les joueurs étaient de jeunes hommes vêtus du costume de Giddy Prime. « Ils s'entraînent à être des vieillards », avait-il dit. Il s'en souvenait parfaitement. Sa compagne, une très jeune femme, l'avait regardé sans comprendre. « Ces jeux de plein air devraient être réservés aux vieillards », avait expliqué Duncan.
« Hein ?»
Question à laquelle il était impossible de répondre. Elle se débarrassait de lui d'un simple réflexe verbal. Comme elle s'est débarrassée de moi au sens propre quelques instants plus tard en me livrant au Harkonnen. Ainsi, c'était un souvenir de l'époque pré-Gola. Gola. Il se souvenait à présent de la citadelle Bene Gesserit de Gameux, de la bibliothèque et de ses représentations holo ou tridimensionnelles du duc Atréide, Leto Ier. La ressemblance de Teg n'était pas un hasard, quelques centimètres de plus, mais pour le reste, c'était le même. Même visage étroit, tout en hauteur, même nez à l'arête saillante, même charisme atréide bien connu. Teg. Il se rappelait tout à coup la dernière action héroïque du Bachar dans la nuit de Gameux. Où suis-je? Tormsa l'avait conduit ici. Ils avaient suivi un sentier envahi par les herbes dans les faubourgs d'Issaï. Baronnie. Avant qu'ils aient parcouru 200 mètres, la neige s'était mise à tomber. Une neige moite et collante qui leur glaçait les os et les fit claquer des dents en moins d'une minute. Ils s'arrêtèrent pour remonter leurs capuches et boucler leurs vareuses étanches. C'était un peu mieux, mais la nuit allait bientôt venir et il ferait beaucoup plus froid. « Il y a un refuge un peu plus loin, » dit Tormsa. « Nous pourrons y passer la nuit. » Voyant que Duncan ne répondait pas, il ajouta « Nous n'aurons pas très chaud, mais au moins nous serons secs. » 300 pas plus loin environ, Duncan aperçut la masse grise de la bâtisse. Elle se dressait, haute de 2 étages, à travers le voile flou des flocons. Il reconnut immédiatement son usage. C'était un ancien poste de comptage Harkonnen. À l'abri de ses murs, les fonctionnaires comptaient et quelquefois tuaient tous ceux qui passaient. La bâtisse était faite de terre du pays transformée en une unique brique géante par un expédient très simple, les mottes d'argile préformées était cuite en place à l'aide d'un brûleur à gros calibre, du modèle utilisé par les Harkonnen pour mater les foules. Quand ils se rapprochèrent, Duncan vit les vestiges d'un écran défensif plein champ, avec ses ouvertures en forme de bouche à feu dirigées vers les abords du poste. Quelqu'un avait depuis longtemps démantelé tout le système. Les trous déchiquetés dans le champ étaient en partie comblés par la végétation, mais les bouches à feu demeuraient dégagées. Oui, bien sûr. C'était pour permettre à ceux qui se trouvaient à l'intérieur de mieux surveiller les abords. Tormsa s'immobilisa pour tendre l'oreille et étudier soigneusement leurs alentours. Duncan détaillait l'ancien poste Harkonnen. Il se souvenait très bien maintenant. L'assemblage qu'il avait sous les yeux s'était greffé comme une excroissance difforme sur la structure cylindrique de base, dont la surface, sous l'action des brûleurs, avait pris un aspect glacé. Des cloques et des boursouflures indiquait les endroits où le revêtement avait été surchauffé. L'érosion des siècles l'avait marqué de multiples rayures, mais la forme de base demeurait. Il leva les yeux et reconnut une partie de l'ancien système d'ascension à suspenseur. Quelqu'un avait fixé un palan improvisé à la barre de soutien. Ainsi, le passage à travers le champ défensif n'était ouvert que depuis peu. Tormsa disparut à ce moment-là dans le passage. Comme si un commutateur venait d'être actionné, la scène changea brusquement dans la mémoire de Duncan. Il se trouvait maintenant dans la bibliothèque du Non-Globe en compagnie de Teg. Le projecteur passait une série de vues de la cité moderne d'Issaï. La notion de « moderne » avait pour lui de curieuses résonances. Barony était déjà une cité résolument moderne, si l'on entendait par là qu'elle se conformait aux normes usiformes de son époque. Elle faisait exclusivement appel à la technologie des faisceaux de guidage sur suspenseur pour le transport surélevé des personnes et des marchandises. Aucune ouverture n'était pratiquée au niveau du sol. C'est ce qu'il était en train d'expliquer à Teg. Cela ne manquait pas d'avoir des répercussions sur la physionomie d'une ville où chaque mètre carré horizontal et vertical était précieux. Les ouvertures réservées aux faisceaux de guidage n'avaient pas besoin de dépasser le gabarit des modules de transport universel. Le reste de l'espace était libéré des contraintes de la circulation.
La forme idéale serait le cylindre, avec une plateforme au sommet pour les ornies, avait fait remarquer Teg.
Oui, mais les Harkonnen préféraient les cuves et les parallélépipèdes. Et c'était vrai. Duncan se souvenait de Barony avec une netteté qui lui donnait le frisson. Les tubes de transport la taraudaient comme de multiples galeries de verre qui se croisaient dans tous les sens, obliquement, verticalement, en courbe ou à angle droit. À part la mode des rectangles et des carrés imposés par les Harkonnen, Barony n'obéissait qu'à une règle d'urbanisme, caser le plus de gens possible dans les locaux les plus économiques. Les terrasses étaient les seules parties à peu près humaines de cette fichue cité, avait expliqué Duncan à Lucille et à Teg quand ils en avaient discuté ensemble. Au sommet des immeubles, il y avait les somptueuses terrasses réservées aux élites. Leurs accès étaient soigneusement gardés, aires de stationnement pour les ornies, entrées intérieures et parcs environnants. Les privilégiés qui vivaient là-haut pouvaient oublier l'humanité grouillante qui s'agitait à leurs pieds. Les bruits et les odeurs de cette populace ne montaient pas jusqu'à eux. Ils obligeaient leurs domestiques à se laver et à revêtir des habits aseptisés avant d'émerger sur les terrasses. Teg avait posé une question.
Pourquoi ces populations entassées acceptaient-elles de vivre dans des conditions pareilles?
La réponse était évidente et il l'avait donnée. C'était que l'extérieur était un endroit dangereux. Les administrateurs de la cité avaient d'ailleurs tendance à exagérer le danger. Et rares étaient ceux de l'intérieur qui se faisaient une idée exacte de ce que pouvait être une meilleure vie à l'extérieur. La seule meilleure vie dont ils avaient entendu parler était sur les terrasses. Et la seule manière d'accéder là-haut était de s'avilir au dernier degré.
C'est ainsi que cela se passe, et tu ne peux rien y faire.
C'était encore une autre voix qui résonnait à l'intérieur du crâne de Duncan. Il l'entendait avec la plus grande clarté.
Paul.
C'était étrange, pensait-il, comme les pressions manifestaient le même genre d'arrogance que les Mentat installés au cœur de leur logique la plus friable. Je n'avais jamais jusqu'ici pensé à Paul comme à quelqu'un d'arrogant. Duncan contemplait son propre visage dans un miroir. Il se rendit compte, avec une petite partie de son esprit, qu'il s'agissait d'un souvenir pré-Gola. Abruptement, il se trouva devant un autre miroir. C'était toujours son visage, mais différent. Sa figure sombre et rebondie commençait à prendre les traits durs qu'elle pourrait avoir si elle mûrissait. Il regardait ses propres yeux. Oui, c'était bien ses yeux. Il avait entendu un jour quelqu'un les décrire comme « tapis dans leur caverne ». Ils étaient profondément enfoncés sous leurs arcades, dans le creux dominant ses pommettes hautes. On lui avait dit un jour qu'il était impossible de voir s'ils étaient bleu foncé ou vert foncé quand la lumière n'était pas exactement comme il fallait. C'était une femme qui avait dit ça. Il lui était impossible de se souvenir de cette femme. Il essaya de porter les mains à ses cheveux, mais elle ne lui obéissait pas. Il se souvint alors qu'on lui avait décoloré les cheveux. Qui lui avait fait ça? Une vieille femme. Sa tête n'était plus couronnée d'une toque de boucles noires. Le duc Leto était là, qui le regardait dans l'encadrement de la porte de la salle à manger caladanienne.
« Nous allons passer à table, » dit le duc.
C'était un commandement royal, que seul sauvait de l'arrogance un petit sourire qui avait l'air de dire
« Il fallait bien que quelqu'un le dise. » « Que se passe-t-il dans ma tête ?»
Il se rappelait qu'il avait suivi Tormsa jusqu'à l'endroit où celui-ci disait qu'un non-vaisseau viendrait les chercher. C'était un grand bâtiment qui se profilait dans la nuit, entouré de constructions plus petites qui semblaient tout occupées. On entendait des voix et des bruits de machines, mais aucun visage ne s'était montré aux fenêtres,
Aucune porte ne s'était ouverte. Duncan avait senti des odeurs de cuisine en passant devant la plus grande des annexes. Cela lui avait rappelé qu'il n'avait rien d'autre dans l'estomac depuis ce matin qu'une poignée de lanières séchées d'une substance coriace que Tormsa appelait « ordinaire de voyage ». Ils étaient entrés dans le bâtiment obscur. La lumière avait éclaté. Le sang avait giclé des yeux de Tormsa. Les ténèbres. Duncan regardait un visage de femme. Il en avait déjà vu un semblable en une autre occasion. C'était une tridie extraite d'une séquence holo plus longue. Mais où cela s'était-il passé? Où avait-il vu cette image? C'était un visage presque ovale, au front à peine un peu plus large que le reste de sa courbe autrement parfaite. « Je m'appelle Murbella », avait dit la femme. « Tu ne t'en souviendras pas plus tard, mais je peux te le dire maintenant en te marquant. Tu as été choisi par moi. » « Je me souviens pourtant de toi, Murbella. » Ses yeux verts largement espacés sous les sourcils arqués formaient une zone d'attraction qui renvoyait à plus tard l'examen du menton et de la bouche petite. Les lèvres étaient charnues et il devinait la moue qu'elle pouvait avoir au repos. Les yeux verts le fixaient dans les yeux. Quelle froideur dans ce regard. Quelle puissance. Quelque chose lui toucha la joue. Il ouvrit les yeux. Ce n'était pas un souvenir. C'était en train de lui arriver en ce moment même. Murbella. Elle était réellement là. Elle l'avait quitté quelques instants, puis elle était revenue. Il se souvenait qu'il s'était réveillé tout nu sur une surface moelleuse. Une natte. Ses doigts la reconnaissaient au toucher. Murbella, également nue, se tenait au-dessus de lui en le fixant de ses yeux verts avec une terrible intensité. Elle le toucha simultanément en plusieurs endroits, tandis que de ses lèvres entrouvertes sortait un fredonnement doux comme une berceuse. Il sentit une érection vive, douloureuse dans sa rigidité. Aucun pouvoir de résistance ne demeurait en lui. Elle promenait ses mains, sa langue sur son corps. Et ce fredonnement. La bouche l'entourait, le happait. Le bout durci de ses seins lui sillonnait les joues, le torse. Mais quand il entrevit son regard, il aperçut le froid des seins conscients. Murbella était revenue, et elle recommençait. Par-delà l'épaule droite de la fille, il vit une surface de place transparent. Lucille et Bursmali se tenaient derrière cette barrière. Encore un rêve? Bursmali s'appuyait d'une main aux places, Lucille avait les bras croisés, et son visage exprimait la colère et la curiosité mêlées. Murbella murmura contre son oreille « Mes mains sont du feu !» Elle lui cachait les deux observateurs de l'autre côté du place. Il sentait le feu de ses mains partout où elle les faisait aller. D'un seul coup, son esprit tout entier s'embrasa. Des endroits secrets s'éveillèrent en lui. Il vit des capsules rouges, comme un chapelet de saucisses luisantes, défiler devant ses yeux. Il se sentait brûlant de fièvre. Il était l'une de ces capsules regorgeantes. Il débordait d'excitation enflammée. Ces capsules, il les reconnaissait. Elles étaient lui, elles étaient... Toute la cohorte des Duncan Idaho, l'original plus les Golas en série, entra dans son esprit conscient. Ils étaient comme des graines gonflées sur le point d'éclater, déniant toute autre existence en dehors de la leur. Il se vit écrasé sous la masse d'un ver géant à face humaine. Maudit Leto. Écrasé, broyé, anéanti, un nombre incroyable de fois. Maudit, maudit, maudit. Il périssait par l'épée d'un sardaukar. La douleur explosait en un feu d'artifice aussitôt englouti par les ténèbres. Il périssait dans un accident d'orni. Il périssait sous les coups de poignard d'une truitesse. Il n'en finissait pas d'être assassiné par tout le monde. Et il vivait toujours. Les souvenirs affluaient tant et si bien qu'il se demandait comment il pouvait les contenir tous. La douce joie de tenir dans ses bras sa fille qui venait de naître. Les riches odeurs musquées d'une maîtresse ardente. La cascade de saveurs d'un bon vin danien. Les exercices épuisants dans la salle d'entraînement. Les cuves à Axlotl. Comme un pantin dans un mouvement répété à l'infini, il se voyait sortir d'elle dans la lumière aveuglante, portée par des mains mécaniques. Les manipulateurs aux doigts capitonnés le tournaient et le retournaient dans tous les sens. Et dans sa vision floue de nouveau-né, il apercevait l'énorme masse de chair femelle, monstrueuse dans sa quasi-immobilité gravide, reliée par tout un réseau de tubes et de câbles noirs à une série de bacs métalliques géants. Les cuves, Axlotl. Il était haletant, aux prises avec ses souvenirs en série qui cascadaient à travers lui. Toutes ses vies, toutes ses vies. Il se souvenait à présent de ce que les Tleilaxu avaient implanté en lui, de cette bombe mentale enfouie qui n'attendait pour exploser que cet instant de séduction par une imprégnatrice du Bene Gesserit. Seulement c'était Murbella qui était ici, et elle n'appartenait pas au Bene Gesserit. Il l'avait cependant sous la main, et le dispositif Tleilaxu prit le relais de ses réactions. Fredonnant doucement, il toucha Murbella d'un geste si agile qu'elle en fut alarmée. Il ne devrait pas être si actif, pas de cette manière. La main droite de Duncan vibrait contre les lèvres de sa vulve, tandis que de la main gauche, il lui caressait la base de la colonne vertébrale. En même temps, sa bouche descendait doucement le long de son nez, sur ses lèvres, au pli de son aisselle gauche. Duncan n'avait pas cessé de fredonner légèrement sur un rythme qui la faisait vibrer tout entière, qui la berçait et la rendait faible. Elle essaya de le repousser au moment où il accélérait la cadence de ses impulsions. Comment a-t-il su me toucher là, à cet instant précis? Et là, là? Par la roche sacrée de Dour, comment sait-il? Duncan remarqua le gonflement de ses seins, la congestion du nez. Il vit les mamelons se dresser, dilater, les aréoles s'assombrir autour d'eux. Elle gémissait en écartant les cuisses. Très honorée, aidez-moi. Mais la seule matriarche très honorée à qui elle pouvait penser était séparée de cette pièce par une porte verrouillée et une solide barrière de place. L'énergie du désespoir envahit Murbella. Elle réagit de la seule manière qu'elle connaissait, par le contact de ses mains, par les caresses, par l'emploi des techniques soigneusement étudiées durant les longues années de son apprentissage. Mais à chacune de ses initiatives, Duncan répondait par une contre-impulsion encore plus stimulante. Murbella s'aperçut qu'elle n'était plus en mesure de maîtriser tous ses réflexes. Certaines de ses réactions automatiques montaient d'un puits de savoir plus profond que celui de son éducation. Elle sentit ses muscles vaginaux se contracter. Elle sentit la brusque libération du fluide lubrifiant. Lorsque Duncan la pénétra, elle s'entendit gémir. Ses bras, ses mains, ses jambes, son corps tout entier se mouvait au rythme d'un double automatisme. Celui qui venait d'un entraînement méthodique et l'autre, plus profond, plus impérieux, qui la faisait sombrer dans un abîme vertigineux. Comment a-t-il pu me faire ça? Des vagues de contractions extatiques naquirent dans les muscles élastiques de son pelvis. Il réagit en même temps qu'elle, et elle sentit l'impact de son éjaculation saccadée. Cela intensifia ses propres réactions. Des pulsations d'extase se propagèrent en ondes concentriques à partir des contractions répétées de son vagin. Encore et encore et encore. Le plaisir débordait tous ses sens. Une tache d'un éclat blanc insoutenable passa derrière ses paupières fermées. Tous ses muscles vibraient avec une intensité de jouissance qu'elle n'aurait jamais cru possible pour elle-même. De nouveau, les ondes se répandirent. Encore et encore. Elle ne pouvait plus tenir le compte des recommencements. Quand Duncan gémissait, elle gémissait, et les ondes se répandaient de nouveau, sans fin. Elle avait perdu la notion du temps et de l'espace. Elle était immergée dans une extase ininterrompue. Elle voulait que cela continue toute l'éternité, et elle voulait en même temps que cela s'arrête. Ce n'était pas normal qu'une chose pareille arrive à une femme. Une honorée matriarche ne devait pas connaître ses sensations. Elle servait uniquement à subjuguer les mâles. Duncan émergea de la séquence réactionnelle qui avait été implantée en lui. Il savait confusément qu'il y avait une autre chose qu'il était censé faire. Mais il ne se rappelait pas laquelle. Lucille? Il l'imagina morte devant lui. Mais cette fille n'était pas Lucille. Elle s'appelait Murbella. Il était vidé de presque toutes ses forces. Il se leva de dessus Murbella et réussit à retomber à genoux. Ses mains tremblaient d'un mouvement qu'il ne pouvait ni contrôler ni comprendre. Murbella essaya de s'arracher à Duncan, mais il n'était plus là. Elle ouvrit brusquement les paupières. Toujours à genoux, Duncan se pencha sur elle. Elle se demandait combien de temps s'était écoulé. Elle s'efforça de rassembler assez d'énergie pour se redresser, mais n'y parvint pas. Peu à peu, la raison lui revint. Elle regarda Duncan dans les yeux. Elle savait maintenant qui était cet homme. Cet homme ? Ce garçon, plutôt. Mais il avait accompli des choses. Des choses contre lesquelles toutes les honorées matriarches avaient été mises en garde. Il y avait un Gola armé par le Tleilax de connaissances interdites. Ce Gola devait être tué. Une petite quantité d'énergie monta dans ses muscles. Elle se souleva sur un coude. Haletante, elle voulut s'écarter de lui, mais ne réussit qu'à retomber lourdement sur la natte. Par la roche sacrée de Dour, on ne pouvait laisser vivre ce mal. C'était un Gola, et il était capable d'accomplir des choses que seuls les honorés matriarches auraient dû faire. Elle voulait l'attaquer, et en même temps brûlait du désir de l'attirer de nouveau contre elle. En elle. Cette extase. Elle savait qu'il aurait pu lui demander n'importe quoi en cet instant. Elle l'aurait fait. Elle l'aurait fait pour lui. Non, il faut absolument que je le tue. De nouveau, elle se dressa sur un coude et cette fois-ci réussit à s'asseoir. Son regard sans force se porta sur la surface de place derrière laquelle se trouvait la très honorée matriarche et son guide. Il la regardait. Le visage de l'homme était congestionné. Celui de la très honorée était aussi impassible que la roche sacrée elle-même. Comment peut-elle rester là sans rien dire après ce qu'elle vient de voir? Il faut que cette très honorée tue le Gola. Murbella fit signe à la femme derrière le place et se traîna jusqu'à la porte verrouillée à quelques pas de la natte. Elle eut à peine la force de tirer le verrou et de pousser la porte avant de retomber. Ses yeux se tournèrent vers le garçon agenouillé, dont la transpiration rendait le corps luisant. Ce corps adorable. Non. Le désespoir lui donna la force de se redresser. Elle se mit d'abord à genoux, puis, par la seule énergie de sa volonté, se retrouva debout. Les forces lui revenaient peu à peu, mais ses jambes tremblaient tandis qu'elle contournait en titubant le pied de la natte. « Je vais le faire moi-même. Je ne dois pas penser. Il faut que je le fasse. » Son corps vacillait d'un côté, puis de l'autre. Elle essaya de ne pas trembler en lui portant un coup à la gorge. C'était un mouvement qu'elle connaissait parfaitement pour l'avoir pratiqué durant de longues heures d'entraînement. Il devait lui écraser le larynx. La victime mourait asphyxiée. Duncan évita le coup aisément, mais il était lent, très lent. Murbella faillit retomber à côté de lui, mais les mains de la très honorée matriarche la retinrent.
« Tuez-le !» haleta Murbella. C'est contre lui qu'on nous a mis en garde. C'est celui-là.
Elle sentit les mains qui se resserraient sur son cou, les doigts qui s'enfonçaient impitoyablement dans les poings riches en air derrière ses oreilles. La dernière chose que Murbella entendit avant de sombrer dans l'inconscience fut la réponse de la très honorée matriarche qui disait
« Nous ne tuerons personne. La place de ce Gola est sur Rakis. »